vos manettes. Quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Bien le bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission de Cordialement Geek. Cette semaine, je vais vous parler du jeu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. On parlera des tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. On aura ensuite une petite news concernant le remake de Silent Hill 2. Une news technologie avec la situation de l'avocat qui a utilisé ChatGPT au tribunal qui ne s'améliore pas. En même temps, c'est bien fait. Et on finira avec les quelques petites sorties jeux vidéo de la semaine. On commence donc avec le test de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Donc c'est un jeu d'action-aventure qui est jouable en solo. Il a été réalisé par Hidemaru Fujibayashi avec la musique que vous entendez de Manaka Kataoka, Masa Miyoshi, Masato Ohashi et Tsukasa Usui. Le jeu a été produit par Eiji Aonuma, développé par Nintendo EPD et édité et distribué par Nintendo. Il s'agit du 20e jeu de la franchise The Legend of Zelda, annoncé le 11 juin 2019 en clôture du Nintendo Direct diffusé lors de l'E3 2019. Il est sorti le 12 mai 2023 sur Nintendo Switch. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom est la suite du jeu d'action-aventure Breath of the Wild de Nintendo, qui est sorti en 2017. Le titre a été pensé pour que le joueur puisse aller où il veut dès le début, s'éloignant de la linéarité habituelle de la série. Le jeu est classé PEGI 12 et il obtient une note de 19 sur 20 de la part de jeuxvideo.com pour une note globale de 95 sur 100 sur Metacritic. Bien que The Legend of Zelda soit une des séries les plus populaires de jeux vidéo, elle a pris une toute autre ampleur avec Breath of the Wild et sa révolution du monde ouvert. 6 ans plus tard, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom a pour lourde tâche de lui succéder, une mission pavée d'embûches entre l'envie de proposer du neuf et le besoin de contenter les fans du premier opus. Nintendo a une façon singulière de traiter sa série Zelda. Pendant les 37 ans de son existence, rares sont les jeux qui ont vraiment utilisé les mêmes univers et personnages. Donc certes, on retrouve les noms et les caractéristiques principales, mais le jeu des réincarnations nous emmène toujours vers de nouvelles versions d'Hyrule et de ses protagonistes. Mais ce n'est pas le cas de Zelda Tears of the Kingdom. Cet opus se déroule quelques années après les faits de Breath of the Wild, dans un Hyrule en reconstruction suite à la victoire face au fléau Ganon. La princesse Zelda, accompagnée de son fidèle chevalier Link, découvre un passage caché sous le château d'Hyrule qui mène à des catacombes étranges. Entre les vestiges qui témoignent de la fondation du royaume 10 000 ans auparavant, il tombe sur une momie ancestrale maléfique qui, en un rien de temps, fracasse l'épée légendaire de Link et fait chuter Zelda dans un ravin sans fond. À son réveil, le héros se trouve dans les cieux où il fait la connaissance avec la technologie Sono, un ancien peuple, qu'il peut maîtriser grâce à son nouveau bras. Zelda ayant disparu, il va falloir la retrouver, le début d'un voyage qui sera très très long. Difficile d'en dire plus sans trop vous gâcher l'histoire, mais cela suffit à comprendre le contexte. La découverte de Tears of the Kingdom se fait donc par les îles Célestes, point central de la communication de Nintendo. Dans une structure très similaire à celle de Breath of the Wild, Link apprend rapidement 4 nouveaux pouvoirs indispensables à sa quête. Donc l'emprise lui permet de porter à distance des objets à sa volonté, mais aussi de les coller à d'autres objets pour former des tas de choses, allant de véhicules aériens, aquatiques ou terrestres à des armes de défense comme des tourelles. Le pouvoir rétrospective a pour effet de faire remonter un objet dans le temps, indépendamment du reste de son environnement. Amalgame permet de fusionner un objet avec une arme, un bouclier ou une flèche pour des effets divers, et infiltration donne la possibilité à Link de traverser le plafond pour passer au-dessus. Avec ces 4 pouvoirs très puissants, c'est une myriade de possibilités qui s'offrent aux joueurs, tant dans l'aspect déplacement et exploration qu'en plein combat. Et c'est cette dimension qui rend Tears of the Kingdom exceptionnel. Donc à première vue, on pourrait croire à une redite de Breath of the Wild, mais dans le ciel. Le contrôle de Link, la façon dont démarre la quête principale sont à vrai dire strictement identiques. Une chose est sûre, Tears of the Kingdom ne sera pas un nouveau Breath of the Wild, dans le sens de la claque de gameplay qui fait ce qu'aucun jeu n'avait jamais fait. Donc Tears of the Kingdom fait du Breath of the Wild, mais attention, il le fait de manière divine. Si vous étiez effrayé de retrouver un Hyrule que vous connaissez par cœur, il n'en est rien. Au cours de nos pérégrinations, on redécouvre un royaume d'Hyrule métamorphosé par un cataclysme qui voit des structures sono s'effondrer sur Terre, et on observe l'évolution de chacun des territoires que l'on avait précédemment visités dans Breath of the Wild. De la vallée Gerudo à la montagne de la mort, les changements sont tellement nombreux qu'ils sont en fait innombrables. Et ceux qui trouvaient Breath of the Wild vide seront heureux, le monde est bien plus vivant et rempli dans Tears of the Kingdom. Les camps ennemis pullulent, certes, mais c'est toute la partie exploration qui devient ainsi plus exaltante. Il est impossible de faire 20 mètres sans croiser de l'œil plusieurs points d'intérêt. Donc certes, on retrouve les sempiternels Korogu, mais ils ne sont qu'une goutte d'eau dans tout ce que vous propose cette suite. Chaque grotte, chaque coin sombre, chaque colline peut cacher de vraies énigmes et des idées de gameplay plus folles les unes que les autres. On n'est jamais déçu de notre curiosité et tout le génie de l'œuvre réside dans sa capacité à rire de ce que l'on considère comme acquis pour nous surprendre. Ainsi, il faut voir Tears of the Kingdom comme une gigantesque boîte à jouer dans laquelle on ne sait jamais ce que l'on va trouver. C'est d'autant plus vrai que si les Korogu et les sanctuaires font leur retour, à cela s'ajoutent d'autres éléments comme les grottes ou les puits, sans compter les îles célestes. Mais les villes ne manquent pas de contenu, avec quêtes et missions très variées, dont le principe fonctionne souvent par rumeur ou énigme. Donc c'est à vous de fouiner pour savoir ce qu'il en retourne. En questionnant les personnages du coin, vous en apprendrez parfois plus, sauf si vous voulez vous débrouiller tout seul. Tears of the Kingdom est un jeu qui vous oblige régulièrement à regarder votre carte et à vous poser des questions pour arriver à vos fins, et le résultat n'en est que plus gratifiant. Donc actuellement, nombre d'entre vous doivent déjà se dire qu'un nouvel Hyrule avec beaucoup plus d'activités, ça sent très bon. Mais si je vous dis que ce nouvel Hyrule a réussi à trouver un autre moyen de s'étendre avec facilement plus du double à explorer. En effet, Nintendo s'est bien gardé de rentrer dans les détails, mais c'est une autre vision du royaume que vous allez découvrir, avec des mécaniques de gameplay plus difficiles, tant dans les combats que dans l'exploration. Donc impossible d'en dire plus sans spoiler, mais sachez qu'ici, c'est la possibilité de construire des véhicules qui prend toute son ampleur. En effet, avec Breath of the Wild, les déplacements ne concernaient que Link et sa paravoile. S'ils sont tous les deux de retour, c'est un esprit MacGyver qui rentre dans la danse lorsqu'il faut construire un 4x4, un planeur ou une catapulte. Le génie, c'est que vous n'êtes pas conscrit à un plan tout fait. Il faut utiliser le moteur physique très permissif de Tears of the Kingdom pour vos inventions. Des roues, un gouvernail et une planche, vous voilà avec un véhicule roulant. Vous pouvez même le monter de phare ou de tourelle automatisée. Besoin de monter verticalement, tentez une montgolfière avec un lance-flamme pour prendre de la hauteur. Rien ne peut vous arrêter tant que vous avez les artefacts adéquats et un peu de jugeote. C'est d'autant plus vrai dans les îles célestes qui font la part belle aux véhicules volants en tout genre. Vous voyez une île au loin et n'avez qu'un petit planeur avec propulseur et deux ventilos. Sans gouvernail, vous ne pourrez que partiellement piloter le véhicule une fois en l'air. Ainsi, il faut calculer la puissance de l'éjection, l'angle, le positionnement de base et même parfois la friction avec le sol, afin de ne pas s'éjecter dans le vide et faire une chute de 1000 mètres vers Hyrule. Difficile de décrire cette sensation quand, après moult calculs, on déclenche le mécanisme en croisant fort les doigts avant de voir notre plan se dérouler à merveille. Voilà, on va faire une petite pause dans ce test pour s'écouter une musique extraite de l'OST du jeu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. C'est la musique Korok Forest, la version jour, qui a été composée par Manaka Kataoka, Maasa Miyoshi, Masato Ohashi et Tsukasa Usui. Et on revient juste après. We'll be right back. Donc c'était la musique Korok Forest, la version jour extraite de l'OST du jeu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom et qui a été composée par Manaka Kataoka, Masa Miyoshi, Masato Ohashi et Tsukasa Usui. On passe à la deuxième partie de ce test. Donc l'une des premières qualités de Tears of the Kingdom, c'est de toujours nous offrir une liberté d'action sans réelle limite. Vous pouvez aller où vous voulez, quand vous voulez, de la manière que vous le souhaitez, y compris vers la fin du jeu. Aucune limite spatiale, mais aussi aucune limite de temps. Tout comme Breath of the Wild, vous n'êtes jamais pressé ni bloqué dans un tunnel narratif. Même dans les moments les plus intenses, vous pouvez vous téléporter pour aller faire autre chose et remettre ces moments difficiles à plus tard si vous le désirez. Le joueur reste ainsi maître de sa propre aventure, et là est toute la force de Tears of the Kingdom. Donc j'ai évoqué brièvement la narration, mais je voudrais revenir sur ce point important car il s'agit d'un vrai changement par rapport à son prédécesseur. Tears of the Kingdom dispose d'une narration beaucoup plus inscrite dans le présent et étonnamment très agréable à suivre. Le mystère de la disparition de Zelda est l'objet de rumeurs incessantes et vous passerez beaucoup de temps à suivre des pistes plus ou moins vraies pour comprendre la vérité. La visite des différentes régions apporte aussi leurs histoires respectives, avec une mention très particulière pour les Gerudo. Il faut dire que l'aura de Ganondorf met forcément la lumière sur le peuple dont il est issu. L'un des points de contention de Breath of the Wild, c'était ces donjons, qui étaient les créatures divines, qui n'avaient pas vraiment marqué les esprits. Sans rien gâcher, sachez juste que Nintendo a vu les choses différemment dans cet opus, pour un résultat qui paraît bien meilleur. On va maintenant parler des combats. Dans leur optique initiale, ils sont très proches de Breath of the Wild. Link se contrôle de la même manière, avec un système de lock indispensable. Toutefois, l'ensemble a été indéniablement amélioré pour tirer profit des nouveaux pouvoirs du chevalier d'Hyrule, et ceci de différentes manières. Premier constat, les ennemis sont plus belliqueux et plus nombreux. Si dans Breath of the Wild, il était rare d'en combattre plus de 5 à la fois, il est régulier de participer à des joutes avec une bonne dizaine d'ennemis dans Tears of the Kingdom. De surcroît, même un simple bokoblin peut réussir à vous surprendre avec de nouvelles attaques, tout en se défendant plus intelligemment. Ainsi, juste foncer dans le tas est franchement impossible, et il va falloir utiliser le plein potentiel de votre arsenal. Le triptyque des armes a ses avantages et inconvénients qu'il est primordial d'apprendre rapidement. La lance tient les ennemis à distance, alors que les armes à deux mains permettent d'étourdir et de casser la garde, malgré leur lenteur. À une main, vous êtes libre d'utiliser un bouclier, parfois indispensable pour contenir les assauts. Mais c'est quand on intègre à tout cela le système d'amalgame que les combats prennent une toute autre envergure. Donc comme je l'ai déjà expliqué, tous les objets peuvent être fusionnés à vos équipements pour des effets très divers. De base, les armes que vous trouvez en jeu n'ont que peu d'attaques, et c'est ce avec quoi vous les fusionnez qui permet de faire de vrais dégâts, en plus de choisir si on veut des dégâts tranchants ou contendants. Plus le monstre tué est fort, plus il laisse tomber des morceaux puissants, ce qui vous assure de toujours avoir de l'équipement adéquat. Mais plus fort encore, certains objets ajoutent des effets, comme des attaques élémentaires, la possibilité de repousser les ennemis, de les étourdir, de lancer votre arme plus loin, etc. Les combinaisons sont tout simplement innombrables, en sachant qu'il faut y ajouter le fait que les armes de base ont souvent des propriétés uniques, comme d'avoir un bonus d'attaque en cas d'esquive ou de booster le bonus de l'objet associé en amalgame, au détriment de la durabilité par exemple. Ce système est d'autant plus permissif avec les boucliers, surtout quand on les lie aux technologies Sono. Ainsi, vous pouvez y coller un lance-flamme et brûler vos ennemis avant de les finir avec votre épée, ou encore y coller un ressort pour envoyer valdinguer les ennemis qui tapent dedans. Avec plusieurs dizaines d'artefacts Sono et la bonne centaine d'objets différents, vous trouverez différentes manières de jouer avec la physique ou les éléments. Concernant les flèches, outre le fait d'ajouter des éléments, le simple fait d'envoyer des flèches à tête chercheuse ou des projectiles explosifs, est des plus indispensables. Mais comme si ça ne suffisait pas, il faut ajouter la maîtrise de l'espace à ces combats, et c'est là que les autres pouvoirs entrent en compte. L'infiltration, par exemple, permet de monter les étages des fortifications au nez et à la barbe des ennemis pour des frappes sournoises et létales quand vous ne vous en servez pas directement pour traverser les ennemis les plus gros, et ainsi se retrouver sur leur tête. La rétrospective permet de renvoyer un projectile ou potentiellement de ramener vers vous un véhicule automatisé de combat que vous avez construit. En étant malin, on peut stopper un projectile ennemi, monter dessus et le renvoyer vers son envoyeur pour l'approcher alors qu'il était à distance ou grimper dessus sans effort. Enfin, l'emprise permet de déplacer des explosifs pour tendre des pièges ou des caisses pour se protéger, voire pour enfermer un groupe d'ennemis dans un lieu clos. En bref, la seule limite, c'est votre imagination. Et il est génial de voir comment, dans une même situation, il y a des myriades de moyens de gérer les ennemis, à tel point que chaque combat devient amusant, en plus d'être complexe à gérer. Malheureusement, complexe à gérer est aussi un écueil quand cela concerne les boutons de la manette. En toute sincérité, la pléthore de possibilités font de Link un personnage difficile à manier, non pas dans les déplacements, mais dans l'utilisation des pouvoirs et des objets. Vous allez régulièrement vous tromper de bouton et ainsi ouvrir le mauvais menu contextuel. La plupart des menus figent en l'action, il est rare de mourir à cause de cela, mais cela peut quand même beaucoup freiner le rythme. Nous arrivons donc à un point névralgique qui soulève beaucoup de questions. Zelda Tears of the Kingdom est-il joli ? Donc, techniquement, non. Il a beau arborer tous les cache-misères du monde, à commencer par son style graphique, son gigantesque monde ouvert sans téléchargement couplé à sa gestion poussée de la physique. Donc tout ça a clairement raison de la pauvre Nintendo Switch. D'une, les développeurs ont dû faire des concessions, il ne faut pas regarder les feuillages ou les textures ou les effets de fumée de trop près. De deux, les ralentissements sont nombreux, notamment en forêt et sur les îles célestes, et il y a même quelques frises dans les situations les plus extrêmes, notamment en free fall ou autre prouesse aérienne à toute berzingue. On ne peut s'empêcher de penser ce qu'aurait pu être le génie de ce gameplay et de cet univers sur une machine plus puissante. A l'inverse, la bande-son est tout simplement prodigieuse. Les mélodies sont fantastiques et les variations de thème et de rythme sont toujours à propos. La musique s'emballe quand les combats durent et certains repères sonores soulignent l'action avec finesse. Si le thème principal marque déjà les esprits, sachez que Zelda Tears of the Kingdom est loin d'être avare en orchestration épique, tout en accompagnant avec douceur les moments les plus calmes. Donc pour résumer les points forts, on a la liberté qui en fait un vrai jeu d'aventure, on a beaucoup de choses à faire, une narration plus poussée et touchante, des énigmes intéressantes, des surprises par palette, une bande son au top niveau, des NPC qui vivent leur vie, l'incroyable souci du détail, les fusions qui sont géniales, les constructions qui sont fun, et on a une durée de vie absolument titanesque, même par rapport à Breath of the Wild. Pour les points faibles, on a une structure un poil trop proche de son prédécesseur, des ralentissements voire des micro-freezes, on a trop de boutons, et ce qui engendre donc certaines confusions. Voilà, du coup on va pouvoir clôturer ce test avec une autre musique extraite de l'OST du jeu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, c'est Stable de Manaka Kataoka, Masa Miyoshi, Masato Ohashi et Tsukasa Usui, et on revient juste après. Thank you. c'était la musique Stable, extraite de l'OST du jeu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, composé par Manaka Kataoka, Masa Miyoshi, Masato Ohashi et Tsukasa Usui. On va faire une petite pause publicité et on reviendra juste après pour les tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. Une news jeux vidéo, une news technologie et on finira avec les sorties de la semaine. A tout à l'heure.
À vos manettes, quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Rebonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour la deuxième partie de l'émission Cordialement Geek. On va tout de suite commencer avec le top des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. Donc le top 5 qui fait aussi top Nintendo Switch. On a en 5ème place The Legend of Zelda Breath of the Wild, donc le premier jeu. Sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. En 4ème place, c'est Hogwarts Legacy sur PS4, un jeu de Warner Bros. Interactive Entertainment. En 3ème place, c'est Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. En 2ème place, Street Fighter 6 sur PS5, un jeu de Capcom. Et en première place, c'est donc The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. Le top 3 pour la PS5, on a en 3ème place Star Wars Jedi Survivor. En 2ème place, c'est Call of Duty Modern Warfare 2. Et en première place, Street Fighter 6. On a presque le même top pour la Xbox série avec en 3ème place Star Wars Jedi Survivor. En 2ème place, Forza Horizon 5. Et en première place, Street Fighter 6. Pour la PS4, on a en 3ème place FIFA 23, en 2ème place Street Fighter 6 et en première place Hogwarts Legacy. Pour la Xbox One, on a en 3ème place GTA 5 l'édition Premium, en 2ème place FIFA 23 et en première place Hogwarts Legacy. Le dernier top, c'est le top 3 PC avec en 3ème place X-Plane 12, en 2ème place Microsoft Flight Simulator l'édition Premium Deluxe et en première place c'est Football Manager 2023. On passe maintenant à la news jeux vidéo. 2023 est une grande année pour Sony et sa PlayStation 5. Elle verra notamment l'arrivée de Silent Hill 2, remake furieusement désiré par toute une communauté. Et justement, une potentielle date de sortie vient de fuiter. Décidément, 2023 est une année reine pour la PlayStation 5. Non seulement la pénurie est enfin terminée, débouchant sur des scores de vente impressionnants pour la console, mais cette dernière va aussi connaître certaines exclusivités de renom. On peut citer en premier lieu Final Fantasy XVI qui sortira le 22 juin prochain, Marvel's Spider-Man 2 qui sortira le 20 octobre donc prochain, ou encore Silent Hill 2. Remake du titre culte de Konami, celui-ci a été annoncé l'année dernière avec un trailer qui avait fait débat, exhibant une plastique flambant neuve. Les développeurs de chez Bloober Team ont promis une expérience à la fois modernisée, avec une caméra à l'épaule par exemple, et authentique, pour une sortie en 2023 sans date précise à se mettre sous la dent. Toutefois, un indice de taille vient d'être donné, le revendeur australien Gorilla Gaming a laissé apparaître un petit 29 septembre sur la fiche produit du soft. Une information néanmoins à prendre avec des pincettes par mesure de sécurité. Donc je rappelle qu'une diffusion sur PC est également au programme, donc ultérieurement après cette petite exclusivité PS5. À en croire l'enseigne donc, Silent Hill 2 sortirait sur PlayStation 5 le 29 septembre 2023. Il convient toutefois de ne pas prendre l'information pour argent comptant, il pourrait aussi s'agir d'une simple erreur et c'est bien pour cela qu'attendre une officialisation paraît judicieux. Au passage, soulignons l'énorme affluence de remakes rien que cette année, entre Dead Space sorti en janvier, Resident Evil 4 en mars ou System Shock en mai. De nombreux fans sont aux anges. D'autres joueurs, en revanche, blâment plutôt la rareté des nouvelles franchises. Évidemment, personne n'est jamais content. Enfin, tout le monde n'est pas content. Alors, du coup, on va maintenant passer à la news technologie. Donc certes, les dernières avancées en matière d'intelligence artificielle sont remarquables, mais il faut reconnaître leurs limites. Un avocat américain n'a pas su reconnaître cette limite, et il se trouve maintenant dans une situation très délicate après avoir utilisé ChatGPT au tribunal. Donc un avocat de New York qui a utilisé ChatGPT pour rédiger un dossier juridique s'est abondamment excusé à son retour devant le tribunal. Ce dernier est devenu émotif en expliquant avoir été dupé par le chatbot d'intelligence artificielle. Donc je rappelle que durant sa tentative d'essai désastreuse de ChatGPT dans un procès, l'outil d'intelligence artificielle a sorti de nombreuses absurdités qui ont choqué tout le monde. L'avocat Steven Schwartz du cabinet Tribeca Levido, Levido and Oberman, a déclaré à un juge fédéral de Manhattan qu'il avait été profondément humilié par ce qui s'est passé. En même temps, c'est sa faute. Je cite, « Je voudrais sincèrement présenter mes excuses à votre honneur, à ce tribunal, aux accusés et à mon cabinet. Je regrette profondément mes actions qui ont conduit à cette audience d'aujourd'hui », a déclaré Schwartz lors de l'audience bondée. « Je n'avais tout simplement aucune idée que ChatGPT était capable de fabriquer des citations entières de cas ou des opinions judiciaires, en particulier d'une manière qui semblait authentique », a également écrit Schwartz dans une déclaration citée par le New York Times. L'émotion et l'humiliation de l'avocat étaient palpables au cours de cette audience si particulière. Cela a été profondément embarrassant, tant sur le plan personnel que professionnel, car ces articles seront disponibles pendant des années, a déclaré l'avocat. Voilà, l'intelligence artificielle c'est bien, mais si vous pouvez faire vos recherches vous-même, c'est quand même un petit peu mieux. On va maintenant finir avec les sorties jeux vidéo de la semaine. Donc on a eu deux sorties aujourd'hui, vendredi 16 juin, avec F1 23 sur PC, PS5 et Xbox Series, et Park Beyond sur PC, PS5 et Xbox Series. On aura ensuite deux autres sorties pour mardi 20 juin avec Crash Team Rumble sur PS5, Xbox Series et PS4, et Aliens Dark Descent sur PC, PS5 et Xbox Series. Et les dernières sorties de la semaine, ça sera pour jeudi 22 juin avec Final Fantasy XVI sur PS5, et enfin Dr. Fetus Meat Machine qui sortira sur PC, PS5 et Xbox Series.
Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo sur Neptune FM.
Donc voilà, c'est ce qui termine l'émission de Cordialement Geek de cette semaine. Je rappelle que vous pouvez me retrouver sur Facebook pour l'émission Cordialement Geek, mais aussi pour mon autre émission Asian Bubble, que vous pourrez retrouver lundi prochain de 21h à 22h sur Neptune. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et à chez fête.
Retrouvez Cordialement Geek chaque vendredi à 18h30 avec Loli sur Neptune FM. À retrouver en podcast sur neptunefm.com.